France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous, retrouvons aujourd'hui la suite du concert égoïste de Laurine Mazel, une émission que Claude Maupomé avait enregistrée avec le chef d'orchestre en 1977, l'année même de sa nomination à la tête de l'Orchestre National de France. Le maestro nous faisait partager ses choix musicaux, des choix sentimentaux, comme il le confiait à Claude Maupomé. Au programme, Kreisler, Ravel, Gershwin, Armstrong, Mozart, Dvorak, Prokofiev et Puccini avec cet extrait de Tosca dirigé par Victor de Sabata, le grand maître de Laurine Mazel.
Qualcun venne certo a sturbar gli amanti ed essa nel fuggir perdere penne.
La corona, lo stemma, era t'avanti, presa da sospetto.
Ha sortito l'effetto.
Thank you.
una carrozza. Presto, seguila dovunque vada. Non visto, non vedi.
Va bene, il regno.
Palazzo Farnese.
Il y a une histoire de deux chefs d'orchestre allemands très, très bien, qui étaient à la répétition du, sous la direction de Zapater. Et après cinq minutes, un chef d'orchestre s'est mis debout et il a dit à l'autre, et nous disons que nous sommes des chefs d'orchestre, nous. Parce que c'était vraiment un grand maître. Et justement, s'il était... en vie aujourd'hui, je crois que 90% des chefs d'orchestre devraient aussi disparaître. C'était une autre époque.
Ça, faut dire que le sens lyrique, le sens dramatique, la puissance, tout.
La puissance, la maîtrise, la sobriété, il était un vrai chef d'orchestre professionnel. Il ne faisait pas de la direction de temps en temps. Il était le chef. comme ça.
Alors là, nous l'écoutions dans la fin du premier acte de Tosca, avec Maria Callas et Tito Gobbi, ils dirigeaient les chœurs et l'orchestre de la Scala de Milan. Et quelles sont, selon vous, les qualités indispensables pour votre métier ?
Métier de chef d'orchestre, bon, connaissance de la musique, l'amour de la musique, le don de la communication, une sobriété, beaucoup de patience, la capacité de dompter les musiciens dans le bon sens du mot. Oui, de convaincre les musiciens qui se trouvent autour du chef qui vraiment ce qui est en train d'être fait est valable. Ça vaut la peine, au fond. Maîtrise d'un instrument, une connaissance de l'harmonie, contrepoint, la composition et tout ça. Et alors, beaucoup d'énergie. C'est un métier qui demande beaucoup du corps et de l'esprit. Et de temps en temps, on se trouve tellement coupé, vraiment par terre, parce que... atterri par les événements, c'est trop. Mais il faut avoir cette énergie qui...
Et contrôle, oui.
Et contrôle, oui, soi-même, et aussi une légèreté. Il faut être au-dessus des événements aussi.
Oui, justement, je vous demandais la première fois qu'on s'est rencontrés pour cette émission. J'étais étonnée de la somme de travail que vous arriviez à fournir, tout en restant parfaitement calme, en ayant l'air toujours d'avoir le temps. Et vous m'avez dit, c'est une question d'habitude, d'organisation.
Oui, je rappelle très bien les premières expériences que j'avais comme chef d'orchestre, comme adulte, jeune. Après chaque concert, j'ai dû prendre 10 jours de vacances. Parce que je
épuisé.
Ne pouvais plus, absolument épuisé. Et maintenant, je peux donner une série de concerts, c'est pas pour des mois, en travaillant chaque jour, tous
et
les jours.
Et en passant d'une œuvre à l'autre, c'est possible
oui,
aussi.
Oui, et je reste assez calme et tranquille, parce que justement, j'ai dû apprendre comment on peut rechercher les batteries, et peut-être pendant 5 minutes de sommeil, de relax. Et bien sûr, on peut toujours continuer comme ça. C'est pas bien, c'est pas normal, parce que quand même, il faut apprendre de la vie, il faut vivre pour donner quelque chose aux autres.
Oui,
oui exactement. Oui. Il faut avoir des expériences. On peut pas travailler tout le temps. C'est
travailler,
pas bien.
Prendre l'avion, travailler, prendre
non,
l'avion.
Non, il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui font ça, et je suis complètement contre. Je prends de temps en temps des périodes de 2-3 mois, complètement pour moi, justement pour avoir ces expériences.
Ça, c'est la sagesse. Nous passons à un autre document que vous avez voulu à ce programme, qui est un grand violoniste, qui est Fritz Kreisler. Ça, c'est un enregistrement encore plus ancien, parce qu'il date des années 20. Le tambourin chinois. C'est quelqu'un que vous admirez beaucoup.
Pourquoi Fritz Kreisler ? Bien.
Pourquoi plutôt lui ?
Un grand artiste, grand violoniste, mais voilà, raison sentimentale. le premier concert que j'ai entendu dans ma vie était dirigé par M. Klemperer. Il avait l'après-midi d'un faune et en soliste, Fritz Kreisler, en jouant le concerto de Beethoven. J'avais 5 ans et c'était à Los Angeles. Et alors, je garde un souvenir de lui.
Vous pensez que ça a pesé dans la décision d'apprendre le violon, persévérer?
Sans doute. Et d'ailleurs, il avait une allure...
Il était beau, non?
Oui.
Enfin, agréable à voir.
Oui, agréable, oui. Il était déjà assez, un homme assez âgé, quoi. Mais il avait une allure comme artiste vraiment extraordinaire. Et j'entends très souvent ces disques parce que c'est justement ça qui manque aujourd'hui. La fantaisie, le raffinement d'expression, la souplesse et l'amour de la vie, des êtres humains.
Certaines tendresses.
tendresse. Mmh. Et dans sa musique, on n'entend jamais carrière, l'artiste égoïste, l'avarice et tout ça, comme on voit partout aujourd'hui, malheureusement même parmi les artistes et dans le monde musical. Et c'est triste. Et justement, il a su donner une joie de vivre aux autres.
Qu'est-ce que vous choisissez alors, tambourin chinois?
Oui. Incroyable.
Tambourin chinois de et par Fritz Kreisler. Bel exemple. Lorine Mazel, je lis dans une biographie, une de vos biographies, où il y a des constantes et puis il y a également des interprétations diverses. Son originalité, c'est d'être locale. Ravel en France, Verdi en Italie, et en Russie, Moussorgsky, etc., etc.
Wagner, Bayreuth, Gershwin en Amérique.
Alors, puisque vous êtes à Paris, je vois qu'il est bien normal et que vous êtes dans la maison de Radio France, qu'il est normal que vous nous jouiez un passage de l'enfant et des sortilèges que vous aviez enregistré il y a combien d'années maintenant?
Oh, je dirais 12 ans.
Oui, avec l'Orchestre National, les solistes.
C'était justement le 30e anniversaire.
Oui, de la maîtrise.
Et d'ailleurs, Colette, je garde toujours un souvenir très tendre de ses œuvres, et c'est une collaboration extraordinaire. Et ce côté fantastique et jeune, j'admire beaucoup chez Ravel.
Alors, quel passage? Ça, c'est difficile.
Bon, c'est la théière et la tasse.
Tasse chinoise.
La tasse chinoise, un tout petit bataille entre eux. Et il y a des sonorités, des sense of humor vraiment tout à fait particulier.
Vous aimez l'orchestre de Ravel?
Ah oui, ah oui.
Les chefs d'orchestre aiment bien l'orchestre de Ravel, ouais. Même hors de France, je crois. Mmh. Pas nécessaire d'être à Paris.
How is your Meg?
Rotten.
Better head.
Come on.
Black and costo, black and chic, black, 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 jolly fellow, black. I punch her. I punch your nose. I punch, I knock out, you soon be chose. Black, black, and thick, and frappo fast, and frappo good. I bought you, I farm blood you.
La théière et la tasse chinoise, l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, Jeanine Collard, Michel Sénéchal, chœur et maîtrise de l'ex-ORTF, Orchestre National, dirigé par Laurine Mazel. Bon, ça c'est un exemple de direction, mais moi je voudrais savoir ce qui va suivre.
Gershwin, bien sûr, à côté de Ravel.
Alors ça, vous l'avez souvent dirigé, Gershwin. Aucun mépris pour Gershwin. Vous savez que c'est un musicien que beaucoup de gens...
Non, mais il s'agissait
d'un... Disent que c'est un semi-musicien.
Non, c'est pas vrai. Un homme d'un talent...
Schoenberg n'était pas de cet avis. Schoenberg,
pas du tout.
Oui.
Pas du tout. C'était...
Mais je joue au tennis aussi avec lui.
C'était voisin rêvé. Exactement. Et il est venu à Paris, justement, à étudier avec Ravel. Il y avait cette histoire fameuse du cachet, des horaires.
Quelle histoire?
Ah, parce que Ravel disait, bon, combien est-ce que vous gagnez par an, M. Gershwin? Non, bon, 150 000 dollars. Ravel dit, et vous êtes venu prendre des leçons avec moi, mais c'est inutile, ça devrait être tout au contraire. C'est à moi
à apprendre,
et beaucoup. Mais... justement, je viens de faire un disque de Porgy and Bess. Mm-hmm. C'est une grande opéra. C'est une opéra vraiment de première qualité. Une opéra comme Boris Godunov, de ce genre-là, basée sur le drame d'un peuple. Mm-hmm. Et les personnages sont très bien formés, très bien musicalement peints. Et alors, justement, de l'autre côté, Gershwin a eu une influence sur la musique de Broadway. Et Louis Armstrong, qui j'aimais toute ma vie, comme tout le monde, a fait une variation sur un des thèmes, des mélodies, une des mélodies prises de l'opéra. Mm-hmm. There's a boat that's leaving for New York. C'est une mélodie extraordinaire. Et justement, j'ai envie maintenant
d'écouter
ça.
And there'll be nothing too good for you. I'll dress you in silks and satins in latest Paris style. All the blues you'll be getting, you'll be forgetting. There'll be no fretting, nothing but smiles, honey. Come along with me. There's the place. Don't be a fool. Come along, come along. There's the boat that's leaving soon for New York. Come along with me, that's where we belong. Yes, sister, that's where we belong. Yes, sister, sister, abitus, betu, abitus, dead, papa, do, ditus, bibitus, dos, wababitus, dos, dos, dos,
Porgy and Bess, there's a boat that's leaving soon for New York.
Mais c'est un rêve à faire avec Porgy and Bess. Le rapport est le suivant. Brubeck, Bach, Armstrong, Gershwin. Parce que si vous prenez le disque, justement, c'est une variation écrite par Armstrong. C'est magnifique.
Oui.
Mais la vraie chose est...
Vous aimez, vous, ça.
Ah, oui. C'est tout autre chose.
Vous aimez danser?
Oui, pourquoi?
J'étais sûre de ça. Bien. Le violon, Laurine Mazel, vous ne l'avez jamais abandonné?
Non, comme je disais avant, j'aime jouer, surtout chez moi.
Oui, un beau jour... Enfin, éventuellement ailleurs aussi.
Mais un beau jour, j'ai vu beaucoup de solistes qui se misent à diriger, voilà. Alors, il le passe très souvent au pupitre en veste de chef d'orchestre. Alors, je me suis dit, c'est très bien, la baguette ne sonne pas, mais si le chef d'orchestre se met à jouer un instrument, peut-être ça va donner une drôle d'impression. Et pour ça, j'ai commencé de donner des concerts avec les orchestres, en jouant et en dirigeant ensemble. Non, alors, je fais des blagues, je rigole un peu. Au fond, je voulais faire comprendre qu'un chef d'orchestre, pour être chef d'orchestre, doit avoir une connaissance d'instrument et doit être capable de communiquer avec cet instrument ses sentiments musicaux, ce qu'il trouve dans la musique. Et justement, et le Mozart, qui reste toujours le plus grand dieu pour moi parmi les compositeurs, est un compositeur qui j'aime beaucoup jouer. Et j'aime les symphonies, nous sommes en train de faire toutes les symphonies à Cleveland, justement un cycle complet. Mais les concertos pour violon sont vraiment extraordinaires. Et dès que vous m'avez posé la question, très pudiquement, et je vous suggère, peut-être on joue un extrait d'un disque que j'ai fait avec English Chamber Orchestra.
Vous dirigez du violon. Si
oui,
on
je dirige et joue
et
en même temps.
Vous avez même écrit la cadence de ce mouvement.
Oui, curieux, j'ai pris les motifs de Mozart, je n'ai ajouté pas une note de moi, mais j'ai composé une cadence, c'est-à-dire dans le vrai sens étymologique du mot, composer, mettre ensemble ces petits morceaux. Et voilà, une cadence est née comme ça.
C'est le premier mouvement du troisième concerto pour violon en sol majeur.
Thank you.
voulez que je vous dise quelque chose, Laurie de Mazel? Je crois que Monsieur de Sabata avait raison. Je pense pas que... Je ne sais pas si dans les mathématiques, vous auriez fait aussi bien. C'est possible, après tout.
Mais justement, jusqu'à ce moment, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais en écoutant ce disque, je me suis souvient des conditions dans lesquelles nous avons enregistré ce disque. Il faisait 42 grades dans la salle. Et les murs pleuraient. C'était incroyable. Justement, on était à Londres. Mais on ne met jamais ce genre de renseignements sur la pochette. Jamais.
Non, c'est une interprétation merveilleuse parce qu'elle est jeune, elle est de l'âge de Mozart.
Oui.
Quand il a écrit ce concerto. Oui, c'était le premier mouvement du concerto numéro 3 en sol majeur de Mozart pour violon, soliste et chef, Laurie de Mazel, English Chamber Orchestra. Maintenant, vous avez choisi une symphonie de Dvorak, la 8e, par votre orchestre, dirigé par un de vos illustres prédécesseurs, Georges Zell.
Oui, je garde une grande admiration pour Maître Zell. Il a su former un orchestre qui appartient déjà à l'histoire des grandes formations. C'était un musicien de grande classe, très sévère, et au même temps chaleureux. Et j'étais vraiment très heureux de pouvoir prendre cet orchestre après sa mort et de pouvoir continuer à travailler, faire travailler l'orchestre dans cette tradition. Et justement, je voulais vous faire entendre l'orchestre sous sa direction dans une des œuvres pour laquelle il était très fameux et avec raison, la 8e de Dvorak.
Le 3e mouvement.
Oui. Thank you.
Dvorak, 8e symphonie, opus 88, 3e mouvement, orchestre de Cleveland, dirigé par George Zell. Laurine Mazel, est-ce que c'est difficile de s'habituer aux différents orchestres quand on voyage, leurs différences, leurs couleurs, leur psychologie?
Oui, c'était assez difficile de le passer, mais maintenant...
Je les connaissais tous maintenant, déjà.
À peu près, oui. Mais je ne travaille avec certains orchestres avec lesquels je me trouve à l'aise, avec lesquels je crois que je puisse obtenir certains résultats. Alors, je connais les orchestres, les musiciens, leurs habitudes, et je m'adapte tout de suite.
C'est vous qui vous adaptez?
Oui, je crois que les musiciens doivent faire un effort aussi. Je ne suis pas tellement bon comme ça. Quand même, je suis...
Comment ça, tellement bon? Vous êtes très dur,
chef? Exigeant, uh-huh.
Oui, ça, il faut.
Ça, oui.
Et votre orchestre de Cleveland, alors, vous avez une grande liberté d'action. Vous pouvez innover, prendre...
Oui, le chef d'orchestre permanent, là-bas, a les devoirs nécessaires pour faire l'administration musicale de l'orchestre comme il faut. Il n'est pas lié par des structures inutiles.
Comment est-ce que vous établissez vos programmes? Sur quels critères?
Le grand répertoire, toujours. La musique expérimentale, la musique moderne, série, des cycles, la musique peu jouée, sans raison.
La musique contemporaine?
Ah oui, et justement, vous allez me poser la question, pourquoi je n'ai pas mis la musique contemporaine ici? Mais
je sais que vous la jouez, oui, en effet.
Oui, et très souvent, mais c'est un concert égoïste, justement lié aux événements de la vie. J'ai pas mal d'événements de la musique contemporaine, mais je n'ai pas pu trouver une œuvre qui était liée justement à un
aussi
moment...
Aussi intimement que les autres, oui.
Et justement, j'ai choisi la Roméo et Juliette, le disque que j'ai fait avec...
Lequel de vos Roméo? Parce que vous avez tous fait les Roméo. Berlioz,
de Prokofiev.
Prokofiev, Tchaïkovski.
Parce que ça a été le premier disque que j'ai fait avec l'orchestre de Cleveland. Oui. Bien sûr, il y a une raison sentimentale, de nouveau. Voilà, le même orchestre qui a joué Dvorak, c'est 5 ans plus tard, avec la musique de Prokofiev. J'ai choisi le Mort de Tybalt. On aurait pu choisir des autres morceaux, mais il y en a 52 dans le ballet entier. Alors, c'est un peu difficile de choisir entre... Mais de toute façon, voilà... Roméo et Juliette, avec l'orchestre de Cleveland.
Mais avant que nous nous quittions, je voulais vous demander quelque chose, Laurine Mazel. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Je veux dire, la vie dans le présent et dans l'avenir, le passé, maintenant, on sait ce qui était important. Vous nous l'avez dit. Et maintenant, et qu'est-ce que vous espérez?
L'espoir de pouvoir toujours réagir, d'être toujours sensible aux événements de la vie et aux événements de l'âme. Être insensible, d'être rendu insensible par le fait de la vie, les circonstances, est vraiment une grande tragédie. Et les hommes qui j'admire ont pu toujours garder ce sens de l'amour pour la vie et de pouvoir réagir spontanément avec tout leur âme et corps aux événements, même les événements les plus petits, les plus insignifiants. Exactement.
Nous écoutons Roméo et Juliette, la mort de Tybalt.
Thank you.
Cet extrait de l'acte 2 de Roméo et Juliette de Prokofiev par l'orchestre de Cleveland sous la baguette de Laurine Mazel refermait son concert égoïste, une émission enregistrée par Claude Maupaumé. Le programme, la réécoute et le podcast de cette archive de 1977 sont disponibles sur le site francemusique.fr et sur l'application Radio France. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.